Torahbox.com, pour la diffusion du judaïsme aux francophones, vous retransmet un enseignement de Madame Vanessa Benzaken. Bonne écoute et bon limoud.
On va essayer d'expliquer maintenant un peu plus en détail les modalités, comment ça marche vraiment alors ce dogma ishit. Pour commencer à expliquer ça, le Rav, il donne une analyse très intéressante sur les contradictions apparentes. Les contradictions apparentes. Les contradictions apparentes de comment s'est présenté en général le dogma ishit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des contradictions? Contradiction, ça veut dire des cas ou un exemple personnel. Ou un exemple personnel positif a généré un impact négatif. Alors donc je reprends parce que là c'est un peu technique. Il va donc essayer de détailler le Rav. Des contradictions dans l'axiome. Des contradictions, ça ne veut pas dire que malgré un exemple positif, l'enfant il a eu une influence négative. Pourquoi c'est pas ça la contradiction? Parce qu'il peut y avoir d'autres facteurs d'influence, à part le dogma ishit. Il peut y avoir d'autres facteurs qui changent l'analyse. Mais là, on va pas parler du tout de ça. On va parler de contradiction intrinsèque. Ça veut dire un exemple personnel positif qui a généré une influence négative sur l'enfant. Vous allez me dire comment c'est possible, on va voir. Et l'inverse, plus réjouissant, un exemple personnel négatif qui a généré une influence positive sur l'enfant. Là, on commence à rentrer dans les inyanim. Comment c'est possible une chose pareille? Il va dire, vous allez voir que les contradictions sont très nombreuses. Pourquoi elles sont nombreuses? Parce que ce sont des contradictions apparentes, parce que l'axiome a été mal posé, comment ça marche le dogma ishit. Lorsqu'on va reposer comment il marche vraiment, ce ne sera plus des contradictions. Mais pour l'instant, tel que c'est présenté en règle générale, c'est l'enfant est plus influencé par ce qu'on lui montre que par ce qu'on lui dit. D'accord? En général, c'est comme ça que c'est présenté. L'enfant est plus influencé par ce qu'on lui montre que par ce qu'on lui dit. Présenté comme ça, vous allez constater qu'il y a des incohérences, il y a des contradictions. Donc on va regarder ces contradictions et on va ensuite reposer la définition ajustée. Bezrat Hashem. Quelles sont ces contradictions? Il dit, il a été mis en évidence de façon tout à fait statistique. C'est une chose prouvée, quantifiée. Que beaucoup d'individus qui sont issus d'un foyer où le tissu relationnel n'était pas au beau fixe, oui, Schlombat, c'était pas ça. Beaucoup d'individus sortis de foyers comme ça, ils fondent des foyers exemplaires. Il faut donc maïchit. Oui, l'exemple personnel.
Parce qu'ils ne veulent surtout pas reproduire ce qu'ils ont fait.
Nahon, mais si on dit que l'enfant, Gadol Shimusha Yoter Macher Limouda,
justement, il a appris
chez que l'enfant il est plus impressionné par ce qu'il vit que par ce qu'on lui dit. Alors je comprends pas. Alors quoi? C'est à four? C'est à l'inverse? Alors quoi? Comment ça marche cette histoire?
Il a développé son esprit.
Il a appris ce qu'il faut pas faire.
Dans ce cas-là, il a souffert surtout de la situation. Donc il ne veut pas, reproduire cette souffrance à ses propres enfants.
Il y a fait méote. Alors on va justement arriver vers ça. Mais l'axiome tel qu'il était posé, superficiellement, c'est l'enfant est plus influencé par ce qu'on lui montre que par ce qu'on lui dit. Alors, vous comprenez bien que présenté comme ça, ça ne marche pas ici.
Oui.
On est d'accord?
Oui.
Donc il y a un problème dans la définition, vous êtes d'accord? Ok, vous n'êtes pas d'accord, on recommence.
Non, si il a vu, puisque le Shimushi est encore plus... donc il a vu ce qu'il ne fallait pas faire, donc il sait exactement ce qu'il ne faut pas faire.
Oui, non. Vous avez dit, il a vu. J'ai pas dit ça. J'ai dit, l'enfant est plus influencé par ce qu'on lui montre que par ce qu'on lui dit. En hébreu, ou yoter mouchpa me mache mare imlo, me asher mache omrimlo. D'accord? C'est comme il dit le Rav.
Mais est-ce qu'il voit? Il faut comprendre qu'à un moment, c'est négatif.
Oui, mais encore une fois, vous dites ce qu'il voit. Moi, je dis pas comme ça. Je dis ce qu'on lui montre. Alors?
Bah, est-ce qu'on lui montre ce que les parents ils ont fait? Il a bien vu que ça a des conséquences qui sont négatives. Donc il a appris que négatif.
Rester marié.
C'est pas toujours vrai. La preuve en est qu'un pourcentage minimal va, oui, refaire pareil.
C'est
Minimal, j'ai précisé. Il dit la majorité dans le graphe, ne repro... justement, ils font au contraire, à la four, ils font des foyers exemplaires. Alors
on peut dire A plus B égale C, c'est pas possible. Sur
exactement. Donc ça marche pas.
Non, c'est... il y a des choses qui influencent, il y a des choses qui aident, ça, mais après, chacun a sa prière et c'est pas faire.
Donc vous... Exactement. Donc on voit bien que ça marche pas. Cette définition, elle marche pas.
Je sais pas, il y a des outils, ça influence, ça a des conséquences, mais.
Absolument. Pourquoi ? Parce que d'abord, il n'y a pas de déterminé, ça c'est un. Et la définition, elle était mal posée. Puisque si tu dis l'enfant est plus influencé parce qu'on lui montre que parce qu'on lui dit, ça ne marche pas ici. Non. Qu'est-ce qu'on lui a montré ? Un exemple négatif. Alors quoi ?
Ils ont forcément dit à un moment, il faut se comporter comme ça, et ils ont fait l'inverse.
Alors ?
Donc il a bien vu que ce qu'ils ont fait, ce n'était pas ça. C'est pas bon.
Non, déjà l'enfant petit ne voit même pas la contradiction.
Non, pas dans la contradiction. Il a pas entendu ce qu'il faut faire. Comme s'il n'avait pas entendu ce qu'il faut faire. Il a juste compris de ce qu'il a vu que ses parents ont fait.
D'accord, vous dites encore de ce qu'il a vu. Alors on va arriver à ça. On va arriver à ça. Moi, ce que je veux mettre ici en évidence, c'est que lorsqu'on n'a pas la bonne définition, on n'a pas non plus les bons outils. Or, le Rav Jacobson, il a dit, c'est mal présenté, les Khatrila, cette histoire de Dougma Ishit. Il disait, Nadosh Me'od, c'est un sujet qui est traité par mille et un personnes. C'est quelque chose tellement traité qu'il y a plein d'erreurs. Il dit, et comme c'est mal traité, et qu'il y a des erreurs dans la compréhension des modalités du Dougma Ishit, les gens ne peuvent pas s'en servir. Et ils ne peuvent pas se servir de cet outil extraordinaire et puissant au niveau Khinouri, parce qu'en fait, ils n'en ont pas compris le fonctionnement. On a dit première erreur, c'est pas parce qu'on n'est pas parfait qu'on ne peut pas utiliser Dougma Ishit. Selon un prisme spirituel juif, c'est pas comme ça que ça marche. On va être en cours d'avancement et en cours de fabrication jusqu'à 120 ans. Donc ça veut dire quoi ? On ne peut pas les éduquer, on est pieds et poings liés ? Pas du tout ! Si tu travailles, si tu avances, si tu te remets en question, au contraire, tu es un Dougma Ishit, sans être parfait. Comprenez l'idée ?
Si on n'a pas le but de faire les enfants parfaits.
Bien sûr, Ben Aliyah Velo Ben Mouchla, mais c'est clair, mais c'est clair. Mais souvent c'est mal présenté, c'est un sujet qui a été trop, comme il dit le Rav Jacobson, il dit plus un sujet il est rabâché, plus il y a des erreurs qui se rentrent là-bas. Et notre problème c'est pas maintenant de faire de l'encyclopédie universitaire pour aller chercher le faux du vrai. Notre problème c'est qu'on a un outil qu'on peut pas être mévataire dessus. On peut pas dire c'est pas grave, je m'en servirai pas tant que je l'ai pas compris. On peut pas, enfin, c'est un outil qui est essentiel dans le chinour. Le Rav Jacobson, il explique dans son livre que comme on a vu ensemble que le Ta'alich Chinuchi, c'était Afalav et Chinuch, vous vous souvenez, c'était donc la discipline, etc., le cadre et les encouragements, l'affection et tout ça, vous vous rappelez Afalav et Chinuch, il dit le Dougma Ishit, c'est ni ça ni ça, c'est Makebe Patish. Makebe Patish, c'est comme la pièce finale qui finalise. Il a même expliqué dans une forme imagée que le Dougma Ishit, c'est un peu comme le bouchon qui ferme la citerne. Donc si tu as une citerne, c'est extraordinaire, s'il n'y a pas le bouchon. Tu ne peux pas t'en passer de cette chose-là. Mais si tu ne sais pas comment l'utiliser, si tu sais mal présenter, donc ça te décourage, ça te laisse anonyme, c'est dommage. Donc là, on va essayer de comprendre comment vraiment ça marche. Comment vraiment l'enfant, il perçoit toutes ces choses-là. Comment il vit les contradictions qui, pour nous, sont définies dans notre terminologie d'adulte comme une contradiction. Comment lui, il la vit. Quels sont les effets que ça fait sur lui. Et comment on peut se servir de cet outil qui s'appelle Dougma Ishit, et que le Rav, il lui a changé sa terminologie en Amchasha. Pour ceux qui connaissent les enseignements du Rav Jacobson, Vada, qu'elles connaîtront ce terme. Amchasha, qu'on va traduire par concrétisation, par l'exemple. Et je vais vous expliquer après pourquoi il l'a appelé comme ça. D'accord ? Donc, ici, on constate que présenté comme c'est présenté, de façon superficielle, l'enfant est plus influencé parce qu'on lui montre que parce qu'on lui dit, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. La preuve en est ici, on est en train de voir, voilà, on peut montrer un exemple qui n'est pas positif, et certains, et il dit c'est beaucoup, c'est la majorité dans la population. Beaucoup, au contraire, ils fondent pas juste un foyer moyen, un foyer exemplaire. Donc ça veut dire quoi ? Que de cet exemple personnel qui était négatif, ils ont puisé quelque chose pour faire encore mieux que la moyenne. Alors ça marche pas, cette définition est donc fausse. D'accord ? Maintenant, on va voir l'autre côté qui est plus embêtant. Un exemple personnel positif qui a généré une influence négative sur un enfant. Alors là, c'est encore plus incompréhensible. Quelqu'un, maintenant, il va chercher d'autres causes. Oui, mais peut-être que cet exemple personnel positif, il n'était que positif à moitié, ou que c'était que les apports. Non, non, vous allez voir, je vais vous raconter maintenant un sipour, un super sipour, où là-bas, vous allez voir une histoire, vous allez voir là-bas qu'il n'y a rien à redire. Et pourtant, l'effet a été négatif. Alors, on y va ? Allez, on y va. Il raconte comme ça, Rav Yaakov Sohn, une histoire extraordinaire, édifiante, sur un proche de la famille qui venait des États-Unis. Un Américain, je l'ai appelé l'histoire de l'Américain. Alors, dans cette histoire, il raconte comme ça un cousin éloigné qui est venu vivre en Eretz Israël, qui venait d'Amérique. Et lui et sa femme, c'était des gens, comme il y a des courants aux États-Unis qui s'appellent Modern Orthodox, et orthodoxe moderne, ça paraît rigolo, comme Bassar Khalavi, Khalabissari, mais enfin, c'est comme ça, il y a des courants comme ça. Bon, orthodoxe avec quelques, voilà, quelques facilitations. Et donc, ils sont venus vivre en Israël. Les deux avaient une profession très, très, très recherchée et des salaires. Il dit qu'il suffirait à être Mefarnes toute la ville de Nebrak. Des salaires astronomiques. Astronomiques, pourquoi ? Parce qu'ils avaient une spécialisation professionnelle très, très, très rare, et etc. Donc lui, il travaille dans les marchés vivants, dans l'ingénierie informatique, et elle avait aussi une profession comme ça. Les deux, ils avaient des salaires mirobolants. Et donc, ils se sont installés dans le Carmel, là-bas, dans le nord. Ils ont fait construire un domaine. Et ils se sont installés, et tout allait très bien. Et ils ont fêté l'anniversaire du monsieur de ses 40 ans, la femme lui a fêté. Et puis à la fin de la soirée, tous les invités sont repartis. Et le père, il a dit à son épouse, il lui a dit, à quoi ça sert tout ce luxe ? Grande remise en question. Il lui a dit, on vit que pour ça. Quoi, c'est ça le but de la vie ? Amasser. Et Stan vit dans ce luxe, et quoi, et c'est tout. Il lui a dit, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de plus grand, j'ai envie de quelque chose. Alors quoi, qu'est-ce que tu veux ? Alors il lui a dit, j'ai envie de tout lâcher et partir étudier la Torah à plein temps. Et sa femme, non moins téméraire, elle lui a dit, oui, vas-y. Attends un petit peu. Il est évident que des choses comme ça, en vérité, c'est une chaîne à trave. Il est évident, c'est du Da'at Torah qu'il fallait demander pour des choses comme ça. Et ça, après, c'est au choix de chacun. Eh bien, il l'a fait. Amar ve'asa. Il l'a fait. Il a dit, je ne travaille plus pour vous. Alors, ils lui ont dit, mais comment ? Tu ne peux pas partir. Mais comment ? Ah, si, 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 ça y est, ma décision est prise, je ne travaille plus. Je veux étudier la Torah. À plein temps. Bon. Il l'a fait. Maintenant, la famille a entendu parler de ça. Ils ont été très impressionnés de cette chose-là. Et certains ont dit, oui, bon, ça va pas durer. Tout le monde était un peu interpellé de toute cette histoire. Mais ils ont vu que c'était pas un choix juste ce soir-là. Et là, que c'est quelque chose qu'il a... un choix réel et authentique. Puisque 3 mois plus tard, la société en question, ils l'ont relancé. Et ils lui ont dit, regarde, on a besoin de tes services, on te paye encore mieux, tu viens même pas au bureau, d'accord ? Tu gérerais juste un beeper sur toi, tu gardes un beeper sur toi, que si on a une urgence, on te bip, et tu fais une intervention sur place, et tu viens 2 fois par semaine, pas plus. Qu'est-ce qu'il a dit ? Moi, tu sais, je suis quelqu'un, je sais pas faire à moitié. Ou je suis là, ou je suis là. Donc j'ai fait mon choix, je ne veux pas. Donc il a vraiment persévéré dans la chose. Maintenant, le Rav Yaakov Sohn dit, n'ayez pas de la peine, parce que la femme aussi, son salaire, il suffisait à être mefarnes toute une ville entière. Donc ils n'étaient pas pauvres, d'accord ? Mais comme tout est relatif dans la vie, il est évident que passer quand même de ça à ça, c'est quand même un changement de statut, ok ? Financier. 6 mois plus tard, le cousin en question, il téléphone au Rav Yaakov Sohn. Il lui dit qu'il est très préoccupé, qu'il a des grands problèmes de chinour, et que son fils de 11 ans, qui était brillant, etc., l'enfant modèle, il a commencé à complètement dégringoler au niveau des études, et en particulier dans le Kodesh. Alors, comme il a entendu que son cousin éloigné, c'est un éducateur, et quel éducateur, Rav Jacobson, il lui a dit, conseille-moi, je ne sais pas quoi faire. Alors, Rav Jacobson, il a demandé à voir l'enfant et discuter un petit peu avec lui. Et il commence à lui dire, il prépare des questions pour essayer de le sonder, voir qu'est-ce qui se passe avec cet enfant. Et il lui dit, à ton avis, quelle est la chose la plus importante dans la vie ? Maintenant, le Rav Jacobson, il est habitué à travailler avec les enfants. Donc, il est habitué à ce que quand il pose une question, l'enfant, il va répondre conformément à ce que l'adulte, il a envie d'entendre. Et après, il va devoir décrocher derrière la réponse entre les mots. Quelle était la vraie substance de la réponse ? Oui. Mais cet enfant était très franc et direct. Et donc, il n'est pas passé par quatre chemins. Il lui a dit, le plus important, l'argent. Alors le Rav était complètement décontenancé, tu es sûr, et la tefila, la Torah, le limoud. Alors le petit jeune lui a dit, Ken Gam, ouais aussi, Ken la Olamaba, Ken, ouais. Très froidement comme ça. Alors il lui a dit, mais, alors le jeune il lui dit, oui comme ça tout le monde dit. Il lui dit, et l'argent, c'est le plus important parce que tout le monde le dit aussi. Il dit, ah non, non. Ça, personne ne le dit. Mais moi, je l'ai appris tout seul. Bon, comment tu as appris que l'argent est la chose la plus importante ? Et là, le jeune, en colère, il lui dit, tous nos problèmes, c'est à cause de l'argent. Ça fait un peu drôle, quand même, d'entendre ça dans une famille comme ça-là. Comment ça, tous tes problèmes, c'est comme l'argent ? Oui, de quoi mes parents, ils parlent quand je rentre ? De l'argent. Chaque fois que je veux acheter quelque chose, alors peut-être chez eux acheter quelque chose, c'est pas un carambar. Et... tu m'achètes la prochaine voiture. Ouais. Alors ce qu'ils veulent acheter, ouais, ils me disent non, il n'y a pas d'argent en ce moment. Non, pour l'instant, on n'a pas le budget pour ça. Non, ainsi. Et ça fait des mois et des mois que ça dure. J'en ai assez. Donc j'ai compris qu'en fait, tous nos problèmes, c'est à cause de l'argent. Donc la solution, c'est d'avoir de l'argent. 11 ans, hein, je vous reprécise. 11 ans. Le Rav dit, cet exemple révèle une contradiction intrinsèque et flagrante de la présentation classique du dogma ishit. Pourquoi ? Il dit, le père, il a présenté un dogma ishit parfait. Il n'y a aucune faille. Aucune faille. Il était authentique. Il était authentique. La mère, on aurait pu dire, ça vient de la mère. Elle n'était pas sûre d'elle. Pas vrai. Elle était super authentique. Avec beaucoup de sipouk et beaucoup de satisfaction, et elle était avec lui, tête baissée, ensemble ils étaient. Où est la faille ? Le père, il a montré un exemple personnel que rien ne vaut plus que la Torah. Que rien ne vaut plus que je suis prêt à renoncer. Il l'a fait, c'est pas qu'il l'a dit, il l'a fait. Il est prêt à renoncer à un statut financier très élevé, il est prêt à renoncer à des sommes astronomiques pour la Torah. Donc sa diffusion d'exemples personnels, elle est archi positive. Elle est authentique, elle ne comporte aucune faille. Et le message qui passe, normalement, c'est que rien n'est plus important que la Torah. Vous êtes d'accord ou pas ?
Oui, à part qu'il a entraîné tout le monde.
Comment on peut comprendre que l'enfant, c'est pas juste qu'il n'a pas intercepté le message, et là que le message qu'il a intercepté, c'est bidiouk haefer. C'est exactement le contraire. Rien n'est plus important que l'argent. Alors qu'est-ce que vous dites de ça ?
Il a fait le choix pour eux aussi. En faisant le choix pour lui, il a fait le choix pour eux et ils n'avaient pas forcément le même choix, visiblement.
Parce que, on va redéfinir l'action. L'enfant, il n'est pas plus influencé par ce qu'on lui montre que par ce qu'on lui dit. L'enfant, il est plus influencé par ce qu'il vit que par ce qu'on lui dit. Donc la question ici... c'est pas de se dire, est-ce que je suis authentique ? Est-ce que mon exemple personnel est positif ? C'est comment il le vit, lui. Comment mon fils, il vit ma Avodat Hashem ? Comment ma fille, elle vit ma Avodat Hashem ? Il dit, « Im yesh anashim, shechaim chaim ruchanim gvoim, vela yelet ze sevel » Je prends en hébreu, après je traduis. Ou yafnim shechaim ruchanim gvoim ze sevel. Ça veut dire quoi? Si un enfant, comment il vit notre... je ne sais pas comment dire ça, notre standard de vie spirituelle élevé, s'il en souffre, donc il voit que c'est une souffrance. Et donc c'est la dernière chose qu'il voudra faire, et c'est la dernière chose qu'il voudra reproduire. De la privation relative. Exactement. Alors c'est pour ça que le Rav dit, des formulations comme, à l'enfant, par exemple. Non, je veux acheter ça, maman. Non, on ne peut pas, parce que Abalomed. Parce que papa, il étudie, on ne peut pas. Il dit, Assour. Rachmanout, il dit. Assour, les daber, kachaïma, yeled. Pourquoi? Parce que quand toi, tu es adulte, tu as toute ta tête, tu as le sipouk intérieur, tu as toute cette satisfaction qui compense le sacrifice, mais l'enfant, lui, ne l'a pas. Pourquoi il ne l'a pas? Parce qu'il ne connaît pas encore ce que c'est que la satisfaction intérieure. L'enfant, il est dans l'immédiat, il n'est pas bardat. Il est dans l'immédiat. Maintenant, il veut un bamba. Qu'est-ce que tu lui parles de considération élevée? Il ne comprend même pas ce que tu lui racontes. Je veux la voiture rouge. Non, NKSF lésé. On n'a pas d'argent pour ça. Non! Tu dis pas ça! Vous avez compris l'idée? Donc, Achaïm Arouchani, caché, hein?
On dit pas. Ça aussi, dans la même famille, on peut avoir un enfant qui va très bien vivre cette même crainte, un autre enfant, donc c'est le libre choix de l'enfant.
Qu'est-ce qu'on vient de dire? L'enfant est plus influencé par ce qu'il voit que par ce qu'on lui dit. Donc, il voit, c'est unique! Chaque enfant, il voit autre chose.
C'est plus entre nos mains, normalement.
Non. C'est, ce qui est entre nos mains, c'est quoi? C'est faire en sorte que les enfants soient associés à la joie, à la simcha rouhanit de notre Avodat Hashem. Et c'est pour ça que la simcha, elle est si importante. Shtabar Shemola, tout est dans la Torah. Quand la Torah te dit « Tachat Asher, lo avadetem et Hashem, besimcha obtuv levav » quand elle en fait une accusation grave, qu'elle te dit « Tu n'as pas servi Hashem dans la joie et de bon cœur », il y a tellement d'implications de ça, que si l'avodat Hashem elle est faite contraint et forcé, qu'il n'y a pas de joie, il y a tellement d'implications derrière, qu'on comprend maintenant pourquoi la ta'ana elle est si forte. Parce que ce qui est transmissible à l'enfant, c'est ce qui se vit dans la joie. Pourquoi? Parce que la joie c'est mouchachi, la joie ça se palpe, ça se ressent. Alors que les mots c'est de l'abstrait, c'est du discours. Quand l'enfant il voit que de la joie, pas il voit, oui il voit et il sent de la joie dans ce que tu fais. Lui aussi il a de la joie, parce que la joie est contagieuse. Mais quand quelqu'un, il a un sipouk intérieur, mais il ne démontre pas tellement à l'extérieur. C'est vuneteux. Ouais. Tu crois que l'enfant il comprend tes considérations élevées? Tu crois qu'il comprend tes considérations élevées? Lui il en souffre. Et c'est pour ça que des gens qui ont montré des exemples exemplaire d'abnégation, de sacrifice pour la Torah, de vivre à des mesures financières bien plus basses pour plus de Torah, plus de limoud, même si en vérité tout ça est fixé à Rosh Hashanah, je ne voudrais pas vous dire, mais l'Ikhora, apparemment, les gens ils ont fait, beaucoup de gens, ils disent dans notre public aujourd'hui, ont fait énormément de concessions pour plus de Torah. Comment c'est possible que dans beaucoup de foyers, les enfants aiment Rachmou Bidiou Kafour? Ils ont reçu l'impression inverse. Non seulement ils n'ont pas reçu tout le bénéfice de cette capacité de concession et d'abnégation extraordinaire de notre public aujourd'hui, mais en plus de ça, ils ont reçu le message inverse. Que tous les problèmes, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc la première solution à mes problèmes, c'est d'aller vite en trouver. Et c'est pour ça qu'on peut constater, malheureusement, des exemples où le parent, il est réel, il est authentique, il est tout ce que tu veux. Il tient un collet, le pauvre, et il court partout pour éponger les dettes. Mais ça racole. L'enfant, il ne voit pas le sipouk. L'enfant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le souci, il voit le stress, il voit les discussions sempiternelles, comment on va rembourser les dettes. Voilà ce qu'il voit, l'enfant. Donc lui, qu'est-ce qu'il enregistre? Il enregistre « Zerni lorotse ». Ça, j'en veux pas. Donc la première chose qu'il fait, il va travailler. Vous comprenez maintenant les contradictions apparentes qui n'étaient pas en réalité des contradictions. Pourquoi ? Parce qu'il fallait comprendre comment on définit la chose. Ce n'est pas d'être authentique le point ici. Authentique, nous le sommes. C'est comment il vit ça, lui. Comment l'enfant, il vit ça.
Le cours est terminé. Nous espérons que le cours a été apprécié. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques. Retrouvez également sur le site ToraBox, www.torah-box.com, trois enseignements de judaïsme par des rabbanim différents, sur d'autres sujets variés et sous toutes les formes, audio, vidéo ou sous forme d'articles. À bientôt.